Romains 12. On va faire 5 versets aujourd'hui. Je vais d'abord le lire. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. J'aurais tendance à dire comme commentaire, waouh.
Oui, c'est bon.
Tout ça. Alors, le but, bien sûr, n'est pas de nous culpabiliser, je ne suis pas à la hauteur. Ça ne sert à rien. Le but, c'est de dire comment je peux encore progresser. Et surtout, donc je rappelle un petit peu la structure des Romains que nous avons vus. Nous avons vu l'être humain pécheur, justifié, donc déclaré juste par la mort de Jésus, qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir la vie éternelle et une nouvelle vie sur la terre. Et nous avons vu au chapitre 8 que l'aboutissement de ça, c'est de dire, nous sommes, notre identité, c'est enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous allons vouloir, en quelque sorte, ressembler à notre Père. Là, on revient à ce texte. Donc, le but, je pense, de ce texte, c'est de donner du concret au fait que nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons bien reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et on connaît ce que ça veut dire, être déclaré juste, comme on l'a dit tout à l'heure au moment de la scène, par le sacrifice de Jésus, par le sang versé, par le corps donné, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir expliqué tout cela, dans Romains, à partir de Romains 1, vous rappelez, Paul a dit au début du chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, c'est logique, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, maintenant que nous sommes chrétiens, le mot n'existait peut-être pas, ou ça commence à être utilisé à l'époque, je vous exhorte donc, comment vous allez vivre maintenant ?» En tant que chrétien, non pas pour être sauvé, mais parce que vous êtes sauvé. Autrement dit, pour bien enlever la notion de culpabilité dans tout ça, parce qu'on ne sera jamais à la hauteur parfaite jusqu'au jour de notre mort, parce qu'on est en chemin pour aller dans ce sens. C'est plutôt de dire, cette vie-là est la meilleure vie possible. C'est la vie bonne. Pour ceux qui prennent le métro, récemment, il y avait toute une série de pubs, une série qui proposait une série de DVD à la vente, la vie bonne. Mais la vie bonne, c'est ça que nous venons de lire. C'est ça, ça c'est la vie bonne. Et cet amour, c'est à la fois au sein de la communauté chrétienne, et c'est envers les autres, donc même ton prochain comme toi-même. Et ce que nous en avons vu ce matin, c'est plutôt au sein de la communauté chrétienne. Et la prochaine fois, à partir du verset 14, c'est plutôt vers l'extérieur. Au début, je dis je vais faire tout d'un seul coup, mais je dis que c'est tellement riche que j'ai séparé. Donc la partie vers l'extérieur viendra la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la question de l'amour entre chrétiens. Dès le verset 9, tout est dit. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour. Bien sûr, un mot un petit peu galvaudé, on va dire, mais malgré tout, je pense que c'est l'aspiration de tout un chacun. Au fond, les gens veulent l'amour. Il y a même un film qui était tourné, d'inspiration catholique, J'ai beaucoup aimé le début, quand des gens sont réunis dans une salle paroissiale et le prêtre a dit, bon, deux ou trois personnes qui étaient là, pas trop sûr pourquoi ils étaient là, et le prêtre a dit, qui veut être aimé? Tout le monde. Tout le monde veut être aimé. Donc tout le monde veut, dans ce sens, aimer aussi. Donc c'est une aspiration universelle. La mise en pratique est difficile. Mais tout le monde veut être aimé par les autres. Et quelque part, on veut aussi aimer les autres. Donc, vous savez certainement que cela n'est pas une idée que Jésus a inventée. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Et dans Lévitique 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans l'Ancienne Alliance. Et quand un docteur de la loi est venu poser une question à Jésus, il est venu pour dire, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus n'a fait que reprendre et dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et par ailleurs, il a ajouté à notre moment, notre Seigneur Jésus, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui est dit ici, et c'est là en allant près en matière, c'est que cet amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Littéralement, le mot en grec utilisé veut dire que l'amour soit sans masque. Parce qu'en fait, c'était un mot utilisé dans le théâtre. Donc, dans le théâtre de l'Antiquité, les comédiens portaient des masques, et on le voit encore des fois donc, sur les publicités de théâtre. Le masque avec un sourire pour la comédie, le masque dans l'autre sens pour la tragédie. Parce que bon, quand le comédien joue le rôle, peut-être qu'il joue un rôle tragique, alors qu'il vient par ailleurs de se fiancer, il est aux anges, mais là, dans le théâtre, il joue le rôle de la tragédie. Donc le masque, ce n'est pas le fond. Et Paul dit, donc, ne jouez pas à l'amour, mais aimez vraiment. Il faut que ce soit sans hypocrisie. Il faut que ce soit vrai. Ce n'est pas simplement l'apparence de l'amour. Parce qu'on peut tromper les autres, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit le cœur. Autrement dit, c'est la vie réelle. La vie réelle, pas un jeu. On veut vraiment aimer les autres. Et je pense que je vais revenir à ça dans 2-3 minutes, mais j'annonce déjà un peu la couleur, que il me semble que la meilleure façon donc, de traduire cette notion d'amour, c'est-à-dire, on veut vraiment le bien réel des autres. Pourquoi je dis ça? Parce que la suite de ce verset dit, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Donc, quel est le lien entre l'amour sans hypocrisie et le fait de s'attacher au bien et d'avoir le mal en horreur? Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour cela. Première raison, c'est que tout simplement, le mal et le bien est un thème biblique qui traverse toute la Bible, tout simplement parce que c'est dire, c'est Dieu qui est le bien absolu, et on veut lui ressembler, et donc de rejeter le mal. Donc je lis le deux versets des psaumes, hein, donc le psaume 34, 15, qui dit ceci, Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Ou le psaume 27, verset 37, verset 27. Détourne-toi du mal et fais le bien, possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice. Donc la première raison, c'est que quand Dieu est amour, ce n'est pas simplement un sentiment, c'est aussi un acte, des actions que Dieu a accomplies pour nous. Une autre raison, mais là c'est légèrement, non c'est pas légèrement, c'est un peu philosophique si on veut, mais le chrétien sait, a des raisons de croire au bien et au mal, parce que Dieu a révélé ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que celui qui ne croit pas en Dieu n'a pas vraiment de base, de fondement pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. On ne le dit pas, on ne le reconnaît pas suffisamment. Mais je vais vous lire trois citations que j'ai tirées d'ailleurs de mon livre sur l'athéisme. Donc si vous avez lu le livre, vous connaissez déjà ces citations. Premier, c'est Jean-Paul Sartre, existentialiste. L'existentialisme pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas. Il était athée. Car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus y avoir de bien a priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Donc voilà un athée qui était très lucide à ce moment-là. Il n'y a pas de raison de dire que quelque chose est bien ou mal. Un philosophe contemporain, André Comte-Sponville, dans son livre « L'esprit de l'athéisme », a résumé ainsi. Bref, Pascal, Kant et Kierkegaard ont raison. Un athée lucide ne peut pas échapper au désespoir. Troisième, l'autre grand philosophe Woody Allen. Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Bon, voilà. Bon, c'est une façon plus populaire de dire la même chose, on va dire. S'il n'y a pas... Le chrétien, par contre, on peut dire, on a... Dieu nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Bien sûr, parfois, dans toutes les situations de la vie, il faut réfléchir. Hein, donc, mais on a quand même les grandes lignes. Et c'est pour cela que je dis que, troisième chose, cette partie-là, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien, est une mise en garde contre une idée romantique de l'amour, où l'amour, c'est simplement ce que je ressens. C'est pas ça. L'amour, c'est aussi s'attacher au bien et refuser le mal. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Ce n'est pas... on n'aime pas parce que ça me fait du bien, parce que je me sens bien. Ça peut être le cas. Parfois non. Parfois il faut se forcer un petit peu. Mais si je veux le bien de l'autre, je suis en train de l'aimer quand même. Parce qu'on ne peut pas séparer amour et la notion de bien et de mal. Passe au verset 10. Maintenant, il parle de l'amour fraternel. Donc, l'amour entre les chrétiens. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc c'est la Philadelphia, d'où le nom de la ville aux États-Unis, qui veut dire l'amour des frères, l'amour fraternel. On est en famille, parce que si nous sommes enfants de Dieu, ok, c'est ce qu'il dit dans Romains 8, notre identité, en famille, on va essayer de nous aimer les uns les autres. C'est fondamental. Le même Père, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une certaine proximité, des échanges réguliers, on se voit souvent, un destin commun. Mais quand même, il y a l'impératif soyez plein d'affection. Parce que même dans une famille, les frères et sœurs, parfois, il y a des petits accrochages. On aime, on s'aime, mais. Donc, et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, même entre chrétiens, je suis très content que ici, du verset 9 au verset 13, c'est une série d'impératifs. Ce n'est pas une série d'indicatifs. Ça ne dit pas, voilà ce que nous sommes, même si on a commencé à vivre cela. Mais on est appelé à faire cela, donc on est en route. Ce sont des consignes qui nous sommes communiquées, qui nous sont communiquées. Donc, ce qui fait que on n'attend pas simplement à ce que l'autre s'intéresse à moi, je prends les devants, je m'intéresse à l'autre. Je pose des questions, je prie pour lui, etc. Il ne s'agit pas du grand déballage. Ça ne veut pas dire qu'entre chrétiens, on doit tout dire à tout le monde. C'est pas ça non plus. J'aime beaucoup, d'ailleurs, dans les Galates, où à quelques versets près, Paul semble se contredire, Galates 6, versets 2 et 6, verset 5. Au verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Et au verset 5, il dit que chacun porte son propre fardeau. Est-ce que Paul était complètement fou de se contredire tellement en cinq versets? Je crois que c'est juste. Hein. Il y a des moments bon, on est appelé à porter nos fardeaux, à les remettre au Seigneur, à vivre notre vie. Il y a des moments où ça dépasse ce que nous sommes capables de faire, et à ce moment-là, on porte les fardeaux les uns des autres. Donc les deux choses sont vraies. On n'est pas appelé à être faible, on est appelé à être vrai. Il y a certains moments où il y a des choses à dire. Donc on peut demander l'aide des autres. Mais en même temps, on demande à Dieu son aide pour porter notre propre fardeau. Je pourrais presque dire aussi qu'un verset des Proverbes s'applique à cela aussi. Proverbe 25, verset 17. Donc ce n'est pas, comme je dis, le grand déballage, on est tout le temps les uns chez les autres. Au contraire, Proverbe, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi. En verset en français moderne, qu'il en ait marre, c'est toujours chez lui, et qu'il ne te haïsse. Bon voilà, c'est la sagesse dans les proverbes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais chez quelqu'un, mais il y a le respect. Et c'est pour cela que, justement, à la fin, donc cette version de la Bible seconde, user de prévenance réciproque, je pense que c'est mieux de traduire quelque chose, ayez l'honneur pour les uns les autres, l'estime ou le respect les uns pour les autres. Donc, parce que la familiarité de la vie de famille ne doit pas déboucher sur le laisser-aller ou un manque de prévenance, le manque de respect les uns des autres. Donc, on est dans un équilibre où, d'une part, il faut que qu'on aime fortement, qu'on puisse s'aimer fortement les uns les autres au sein de l'Église. Très content que dans notre communauté, il y a un vrai amour, je pense, les uns pour les autres, mais qui peut toujours aller plus loin. Mais en même temps, chacun doit vivre sa vie devant le Seigneur. Donc cet équilibre-là est toujours à trouver pour que dans la famille de Dieu, il y ait un vrai soutien mutuel, mais que l'on ne soit pas dépendant les uns des autres. Ça, c'est là, il me semble, ce que ce verset est en train de nous dire. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. L'amour de Dieu et notre gratitude, notre reconnaissance envers lui, pour ce qu'il nous a donné, doit nous pousser à le servir, d'abord servir le Seigneur, mais de le faire avec, on va dire, avec ardeur. Certaines, j'ai trouvé dans la Bible en français courant, c'était ça. Soyez fervent d'esprit, ayez un cœur plein d'ardeur. Il semble que esprit ici soit plutôt esprit dans le sens de notre esprit, en contexte, et non pas le Saint-Esprit. Donc c'est notre esprit qui doit être rempli d'ardeur pour servir le Seigneur avec zèle et non pas avec paresse. Parce que nous sommes, en tant que disciples, et je l'ai souvent dit, dans le bon combat. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tout coulait de source, pas besoin d'impératif. On le ferait automatiquement. On a besoin que Dieu nous rappelle de faire ces choses. Et par rapport à la paresse, par exemple, il y a plein de versets dans les Proverbes qui le rappellent. Je vais en lire quelques-uns parce que certains sont assez savoureux, je trouve. Proverbe 6. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies, deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Voilà. C'est assez savoureux. Le chapitre 20 et le verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Mais à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Donc il faut agir au bon moment, avec anticipation. Il faut être trop froid pour aller labourer. Quand c'est le moment de la moisson, il n'y a rien à récolter. Chapitre 21 et le verset 20. Je vais passer au chapitre 26. Ah, j'aime beaucoup ça, les excuses. Le paresseux, donc il ne sort pas pour faire quelque chose, le paresseux dit, il y a peut-être un lion sur le chemin. Peut-être. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de le ramener à sa bouche. Mais le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Je ne l'ai pas plus, mais ce sont autant d'exhortation que la parole vous adresse. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous avons déjà lu dans Romains 5 que l'espérance ne trompe pas. Parce que notre espérance, en fait, c'est. Je veux dire, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et comment on arrive à cette espérance? En partie. Donc je reviens dans Romains 12. Réjouissez-vous en espérance et soyez patient dans l'affliction. Dans Romains 5, il commence avec l'affliction. Pour dire que nous nous glorifions même de nos afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc il y a toujours ce lien, affliction, détresse, ou difficulté, et espérance. Ce qui veut dire, qu'est-ce que cela veut dire au fond? C'est que si on a la vie sans difficulté, si tout tombe sans problème, on risque aussi de se laisser aller et de ne pas se réjouir autant de cette espérance future que nous avons que de deux choses l'une. Soit le Seigneur reviendra pour créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, soit je mourrai et je serai auprès du Seigneur. Et l'affliction nous rappelle en quelque sorte, les détresses nous rappellent que cette vie n'est pas aussi facile que cela. Mais parfois, je me souviens d'un de mes enfants tout petits qui a dit « Je ne pense pas que Jésus reviendra avant dimanche. » Pourquoi? Elle dit bah, « L'école dimanche a préparé toute une scénette pour le culte, donc il ne va pas revenir avant qu'on dise oui cette scénette. » Bon, c'était un raisonnement d'enfant. Mais on a tous un peu ce raisonnement. Et tant que ça se passe bien, on est tout content, en quelque sorte, de la vie. L'affliction nous pousse, en quelque sorte, à aller vers la réalité. Je crois que j'ai cité une fois ici, j'ai eu une fois discuté avec la responsable des groupes publics universitaires en Chine, mais comment elle explique qu'il y a tellement de millions de personnes qui se sont converties en Chine au cours des dernières décennies. Elle a dit, c'est parce que nous avons assez de liberté pour proclamer l'évangile et assez de persécution pour qu'on le prenne au sérieux. Donc c'était une réponse assez intéressante. Et dans ce sens-là, j'ajoute la fin de ce verset 12, persévérer dans la foi. Donc, si devant les difficultés de la vie, on ne prie pas, on est en train, en fait, de vivre quelque chose d'illogique. Je vais même citer une phrase que quelqu'un m'a dit une fois, j'ai trouvé intéressant. Prier, c'est considérer que l'état du monde n'est pas normal. Ne pas prier, c'est dire que tout va bien. Je trouvais ça intéressant comme pensée. Ne pas prier, ça veut dire que tout va bien. Je n'ai pas besoin de prier. Mais je prie parce que les choses ne vont pas bien. Je prie pour Madagascar, je prie pour nos concitoyens. Il faut prier que les choses changent. Puis, on arrive au dernier verset de ce petit texte, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, la solidarité entre chrétiens est quelque chose qui a toujours existé. J'ai toujours été frappé d'ailleurs que l'apôtre Paul, dans la mission, c'était l'évangélisation et l'implantation d'églises, a aussi consacré une bonne partie de son temps à organiser une collecte pour les chrétiens pauvres à Jérusalem. Il a pris le temps parce que c'était nécessaire d'avoir cette solidarité en même temps, tout comme nous on veut être solidaires avec Madagascar. Et puis la dernière chose, exercer l'hospitalité, pas seulement parce que parfois on accueille des anges sans le savoir, hein, seulement Hébreux 13, mais c'est quand même quelque chose d'important. Mais mettons-le dans le contexte de l'époque. Quand les gens voyageaient, il n'y avait pas les Ibis Budget, les Novotel et tout ce qu'on veut. Les auberges étaient un peu mal famées, donc c'était mieux d'accueillir les personnes de passage dans les maisons. On a pas mal de traces de cela dans le Nouveau Testament. Alors, je voulais terminer avec trois témoignages des premiers siècles par rapport à ces versets. Il y a un historien spécialiste de l'époque, des premiers chrétiens, qui a écrit cette phrase. L'évangile s'est répandu dans le bassin méditerranéen car les premiers chrétiens ont mieux vécu et mieux réfléchi que leurs contemporains. Donc c'est la vie et l'explication de la cohérence de cette vie qui porte. Et je pense que c'est intéressant de mettre un peu de concret dans tout ce que j'ai dit ce matin. Je vais lire trois citations des premiers siècles. Le premier, C'est au cours, enfin au début du deuxième siècle, c'est un père de l'Église qui s'appelle Justin Martyr. Et voilà ce qu'il a écrit. Autrefois, nous prenions plaisir à la débauche. Aujourd'hui, la chasteté fait tous nos délices. Autrefois, nous nous livrions à la magie. Aujourd'hui, nous nous consacrons au Dieu bon et non engendré. Autrefois, nous recherchions plus que tout l'argent. Aujourd'hui, nous mettons en commun ce que nous avons. Nous le partageons. Autrefois, les haines et les meurtres nous divisaient. La différence des mœurs ne nous permettait pas de recevoir l'étranger à notre foyer. Aujourd'hui, après la venue du Christ, nous vivons ensemble. Nous prions pour nos ennemis. Nous cherchons à gagner nos injustes persécuteurs. Ceux qui ont du bien viennent en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Nous nous prêtons mutuellement assistance. Ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il veut. Ce qui est recueilli est remis entre les mains du président de l'Église. Il assiste les orphelins, les veuves, les malades, les indigents, les prisonniers, les étrangers. En un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le dénuement. Ça, c'est le début du premier siècle. Du deuxième siècle. Un autre, quelques années plus tard, Ignace d'Antioche, qui s'est adressé à l'église d'Éphèse, donnez à vos ennemis au moins la leçon de vos exemples. À leurs emportements, opposez la douceur. À leur vantardise, l'humilité. À leur blasphème, la prière. À leurs erreurs, la fermeté dans la foi. À leur caractère violent, l'humanité, sans jamais chercher à leur rendre le mal qu'ils vous font. Montrons-nous vraiment leurs frères par notre bonté. Efforçons-nous d'imiter le Seigneur. Troisième citation, c'est au début du IIIe siècle, c'est Tertullien qui décrit le vécu de l'église de Carthage, donc c'est Tunis aujourd'hui. Quoi que j'ai cité une fois, parce qu'il y a une petite phrase au milieu qui me fait sourire à chaque fois. Elle est nulle, quoi. Je l'ai dit. Donc voilà la description de l'église à Carthage. Chacun verse une contribution modique, un jour fixé par mois, ou quand il le peut, quand il le veut bien, ou s'il le peut. Car personne n'est forcé. On verse librement son offrande. On y puise pour nourrir et inhumer les pauvres, pour secourir les garçons et les filles sans ressources ni parents, et pour les serviteurs devenus vieux, comme aussi les naufragés, et aussi les chrétiens qui souffrent dans les mines, dans les îles, dans les prisons, uniquement pour la cause de leur foi en Dieu. Cette pratique de la charité, aux yeux de beaucoup, nous imprime une marque infamante. Voyez, disent-ils, comment ils s'aiment les uns les autres, car eux, ils se détestent les uns les autres. Voyez, disent-ils, comment ils sont prêts à mourir les uns pour les autres, car eux sont plutôt prêts à se tuer les uns les autres. Ainsi donc, étroitement unis par l'esprit et par l'âme, nous n'hésitons pas à partager nos biens avec les autres. Tout sert à l'usage commun parmi nous, excepté nos épouses. Notre repas fait voir sa raison d'être par son nom. On l'appelle d'un nom qui signifie amour chez les Grecs, agape. On se met à table, on ne se met à table qu'après avoir goûté auparavant d'une prière à Dieu. On mange autant que la faim l'exige, on boit autant que la sobriété le permet. On se rassasie comme des hommes qui se souviennent que même la nuit, ils doivent adorer Dieu. Je trouve ces témoignages du premier siècle, et on peut le continuer au cours des siècles, les vrais chrétiens ont essayé de vivre cette vie de communauté, d'amour entre eux et envers les autres, qui est vraiment la marque du chrétien. Comme Jésus l'a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour des uns pour les autres. Je vais...